Bonjour Barbara Lefèvre.
Bonjour.
Vous êtes professeure dans le secondaire. Vous publiez chez Albin Michel un livre sur la faillite de l'éducation, et pas seulement l'éducation nationale, mais aussi l'éducation, la faillite parentale, hein, donc une faillite collective qui a généré ce que vous appelez une génération « J'ai le droit ». C'est d'ailleurs le titre de votre dernier livre, le quatrième, « Génération, j'ai le droit », tous ces adolescents jugés individualistes dont vous regrettez qu'ils s'expriment de manière péremptoire et toujours pour s'élever contre. Cela dit, Barbara Lefèvre, la crise d'autorité pour un adolescent, c'est presque un passage obligé dans sa construction. En quoi cette génération aujourd'hui est-elle différente des précédentes ?
Oui, alors le titre peut laisser penser effectivement que je m'adresse uniquement à la génération actuelle. Je m'adresse pas en réalité uniquement aux élèves qu'on a aujourd'hui dans nos classes. Hein. C'est la génération J'ai le droit, justement, elle est l'héritière aussi de l'éducation qu'elle a reçue de ses parents. Donc nous avons aussi aujourd'hui des parents qui appartiennent à cette génération J'ai le droit. Donc en réalité, c'est quand je parle de génération, on aurait peut-être dû mettre même cela au pluriel. Parce qu'effectivement, on voit bien depuis une trentaine, quarantaine d'années, cette incapacité parfois à mettre son droit particulier en retrait par rapport à l'intérêt général, en particulier quand on est dans des espaces de vie en commun, dans ce qu'on appelle les espaces publics, mais aussi cet espace public très singulier qui est celui de l'école. Et justement, l'école, c'est un lieu assez singulier dans la mesure où c'est la première fois que l'enfant met en quelque sorte son identité d'enfant de côté, non pas qu'il l'abolisse ou qu'il la nie, mais il doit la mettre de côté pour construire autre chose, une autre forme d'identité qui est son identité d'élève. Et on voit bien ici que pour certains enfants, pas pour tous les enfants, mais on a quand même un phénomène assez massif d'une certaine difficulté aujourd'hui des individus à renoncer à cette forme d'individualisme et d'affirmation de leurs droits singuliers et particuliers au profit justement de la loi commune, de l'intérêt général qui est justement celui de vivre tous ensemble dans l'école. Donc voilà, bien entendu, c'est même... je dirais consubstantiel, en particulier à l'adolescence, que de se construire contre. C'est même comme ça que l'individu peut se construire. Mais lorsque l'enfant est petit, et cela est cultivé dès les petites classes, dès la maternelle, dès le primaire, on encourage l'enfant justement à croire que son opinion vaut l'opinion de l'adulte. Et là, ça pose un problème justement pour l'enfant parce qu'il va avoir du mal à se construire.
Avant de parler des problèmes, juste le constat, dans les classes où vous enseignez, comment se manifeste cette génération « J'ai le droit » ? Des exemples précis ?
Ce sont des attitudes, si vous voulez, qui peuvent aller d'attitudes qu'on pourrait qualifier. Alors certains appellent ça de l'incivilité, mais c'est même pas forcément des incivilités. Pour eux, c'est tout à fait naturel de prendre la parole sans la demander. Surtout pour les, par exemple, moi j'enseigne en collège, donc j'accueille des sixièmes.
Vous êtes professeur d'histoire-géographie.
Voilà, je m'occupe aujourd'hui d'élèves en situation de handicap plus particulièrement.
Et vous y consacrez un chapitre dans votre livre, on va y revenir.
Mais je vois des élèves qui en sixième n'ont par exemple pas appris les codes de du maintien en classe, c'est-à-dire ils se lèvent de façon intempestive, ils s'interpellent de façon intempestive, etc. Donc après, c'est à nous les enseignants de recadrer, mais sauf que ces comportements-là, normalement, ça s'apprend en primaire, ça ne s'apprend pas au collège. On voit bien qu'il y a cet étalement aussi de l'apprentissage des codes sociaux. Puis moi, il y a aussi quelque chose qui m'étonne toujours, parce que ça, je l'ai constaté depuis le début de ma carrière à la fin des années 90, c'est par exemple les latitudes et la liberté que certaines familles prennent avec le calendrier scolaire, par exemple. Donc vous avez des années scolaires qui se terminent début juin, dès que les conseils de classe sont passés, et puis qui commencent vers la mi-septembre, parce que le billet d'avion est moins cher le 10 septembre que de reprendre son billet le 31 août. Donc ça pose problème, et surtout, l'attitude de l'administration, par exemple, c'est de considérer cela comme normal. On sait toujours qu'on va avoir 10, 15, ça dépend des établissement, pour cent d'élèves qui vont rater la rentrée, qui vont arriver à distance des autres. Et ça, vous voyez, par exemple, c'est justement un exemple de la génération « J'ai le droit ». J'ai le droit d'arriver en retard.
Voilà. Avec un laxisme, donc, à tous les étages. L'égalité des chances a souvent été associée à cette école républicaine. Vous dites que c'est un mensonge, cette égalité des chances. Pourquoi ?
C'est une formule politique d'abord, l'égalité des chances. Parce que, alors, de toute façon, l'égalité des chances, si on en regarde aujourd'hui les effets, on est exactement dans le contraire de l'égalité des chances, puisque ça fait effectivement une trentaine d'années que toutes les politiques éducatives en France, hein, qu'elles viennent de droite comme de gauche, hein, tous les ministres, quasiment tous, qui ont été aux affaires, ont avancé cette idée de l'égalité des chances pour appuyer la plupart des réformes. Quand on regarde les résultats de toutes les enquêtes, et pas seulement les enquêtes internationales, mais aussi les enquêtes menées par le ministère de l'Éducation lui-même, qui ne peut pas masquer la réalité d'une école de plus en plus inégalitaire. Donc il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors qui sont les responsables de cette école inégalitaire ? Vous les pointez un peu dans votre livre.
je les pointe et je les nomme et je sais que ça ne leur plaît pas, mais je suis pas la seule. Effectivement, je pense que depuis au moins 20 ans, si ce n'est plus, le débat sur l'école et en particulier sur la mission de l'école et le sens de l'école, il a été accaparé par les experts en sciences de l'éducation, ce que j'appelle et ce qu'on appelle les pédagogistes, que je ne confonds pas avec les pédagogues, parce que justement, nous, les enseignants, nous sommes les pédagogues. C'est-à-dire que, au sens grec du terme, nous sommes ceux qui guidons l'élève. Et d'ailleurs, à ce titre, le parent est aussi en quelque sorte un pédagogue, parce que c'est un adulte qui guide l'élève, qui guide l'enfant.
Et le pédagogiste, c'est celui qui a théorisé tout ça.
Voilà, le pédagogiste, c'est celui qui met non seulement de la théorie, mais ça, de la théorie, c'est important, la théorie en pédagogie. Mais le pédagogisme, c'est celui qui a transformé cette théorie en idéologie. Et qui ne supporte aucune contestation. Et surtout pas la contestation qui vienne du terrain, qui vienne des praticiens. Quand ils s'élèvent eux-mêmes pour dire, mais attendez, la façon dont vous voulez qu'on enseigne l'histoire-géographie, la façon dont vous voulez qu'on enseigne la grammaire, qui est pour moi d'ailleurs le plus grave, hein, la question de l'enseignement du français et l'enseignement des mathématiques. C'est pour ça que dans
et
le livre, j'y consacre...
Et l'histoire, vous avez quelques chapitres sur l'histoire
j'ai
aussi.
J'ai un chapitre sur l'histoire parce que je considère que, à la limite, le problème de ma discipline est encore annexe et il est différent, il est plus lié à la question de l'identité, la façon dont on construit notre identité commune, mais... Aujourd'hui, on est déjà simplement sur la base de comment parler déjà une langue commune et surtout comment lire et accéder à la littérature qui pour moi est un des éléments absolument fondamental de la construction de l'individu, au-delà même de la construction du citoyen. Et donc, je trouve que ces gens-là ont accaparé le discours pendant plus de 30 ans. Je pense qu'aujourd'hui, l'échec patent des méthodes qu'ils nous ont imposées, parce qu'ils sont partout, les pédagogistes, je veux dire aujourd'hui, vous les avez à l'inspection générale, vous les avez dans la formation des enseignants, vous les avez dans l'inspection académique, donc de toute façon, on est un petit peu contraint par cette idéologie, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais les profs, il y a la liberté pédagogique, vous faites ce que vous voulez. Non, pas vraiment. D'abord, les programmes...
C'est dans vos notes de vous adapter aussi le programme.
Voilà, c'est-à-dire que nous, on a une certaine latitude dans la façon dont on veut organiser nos cours, mais quand vous avez une inspection et que vous ne faites pas, vous ne suivez pas exactement la doxa de la mise en œuvre pédagogique qui accompagne toujours les programmes, parce que ça, on le dit jamais, mais
il y a les programmes... Vous pouvez être mis au banc parce que vous ne respectez pas votre... Enfin, la doxa...
De... Bah, mise au banc, c'est-à-dire que, bon, de toute façon, déjà, l'éducation nationale, les avancements de carrière, ça, c'est pas extraordinaire. Hein. De toute façon, même si vous faites un excellent cours, vous n'allez pas forcément progresser d'une façon spectaculaire. Mais enfin, oui, vous pouvez être mal vu par l'inspection, du coup, mal vu aussi par votre chef d'établissement. Ça veut dire que les projets que vous pourriez mener ne seront pas forcément vus du même œil. Et puis voilà, il y a une forme d'ostracisme et de discours idéologique.
Juste sur ce chapitre, je fais une parenthèse sur l'avancement au mérite qui est en train de mettre au point en ce moment le gouvernement pour les fonctionnaires, la notation au mérite, l'avancement au mérite, ça vous parle dans l'éducation nationale ?
Alors déjà, ça a été mis en œuvre par la ministre précédente. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui a réformé l'avancement et la promotion des enseignants. Donc on voit bien que c'est une... Là, par contre, on a quelque chose d'assez transversal. Hein. On est bien dans quelque chose de... Ben, c'est la vision managériale de l'administration maintenant aujourd'hui. C'est-à-dire que le chef d'établissement, ça fait déjà une bonne quinzaine d'années, les chefs d'établissement se transforment en managers d'équipe, un petit peu, je dirais, comme dans les hôpitaux. Et on a vu les effets désastreux à l'hôpital. Ben je pense qu'on va commencer à avoir les effets désastreux à l'éducation nationale. Mais vous savez, les notations et l'avancement de carrière, auparavant, c'était pas mieux. Là aussi, il y avait une certaine... forme de mainmise, notamment des syndicats, sur la façon dont les commissions paritaires se déroulaient.
Donc, de paritaire, toute façon, par définition, il y a forcément les syndicats.
Voilà, qui ne sont pas tellement représentatifs, puisqu'il y a moins de 20% des enseignants qui sont syndiqués. Mais oui, bon, voilà, on est dans une situation où ce qui précédait n'était pas satisfaisant, ce qui vient est une espèce de tentative, voilà, de management des enseignants. Je pense que ça aggravera les concurrences, notamment entre disciplines. Et ça, c'est très inquiétant. Parce que notamment les disciplines littéraires ne seront pas forcément celles qui seront les plus utiles au management qui vient.
Tout ça, vous le résumez dans votre livre, Barbara Lefebvre. Ça s'appelle « Génération, j'ai le droit. La faillite de notre éducation ». Ça paraît chez Albin Michel. On va reprendre cette interview, Barbara Lefebvre. Après la revue de presse de Frédéric Pommier, il y aura également Patricia Martin, les questions des auditeurs. Vous appelez les auditeurs au standard de France Inter. C'est au 01 45 24 7000. À tout de suite.